Bienvenue à l'Église réformée du Bouclier à Strasbourg. Nous sommes heureux de vous proposer la méditation de ce dimanche.
Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit. Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. » Dieu dit, « Je vous donne toute herbe porteuse de semences sur toute la terre. » Dieu dit, « Tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui fourmille sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Il en fut ainsi. Dieu vit alors que tout ce qu'il avait fait, c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, le sixième jour. Et toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, versets 15 à 23. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. » Le Seigneur Dieu façonna de la terre tous les animaux de la campagne et tous les oiseaux du ciel. Il les emmena vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom dont l'homme l'appellerait. L'homme appela de leur nom toutes les bêtes, tous les oiseaux du ciel et tous les animaux de la campagne. Mais pour un homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors, le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le Seigneur Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'emmena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. »
Enfin, au chapitre 3, la femme dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas, Dieu le sait. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. » La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, plaisant pour la vue, qu'il était cet arbre désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes.
Thank you.
La tradition chrétienne, très tôt, a associé la béatitude du couple originel à une ère présexuelle, comme si c'était la sortie de l'enfance, associée par je ne sais quelle logique à l'innocence, sans doute par des gens qui n'avaient pas d'enfants. C'était prévu, hein ? Merci. Qui mènerait vers une sexualité fautive et une vie de douleur. Ainsi, déjà, saint Augustin pensait qu'avant d'avoir même mangé du fruit de l'arbre, Adam et Ève avaient une vie innocente et sans concupiscence. Leur corps se rapprochait naturellement et spontanément, comme les mains, dit-il, des époux peuvent se joindre pendant le sommeil. Une idée qu'il développe dans un traité intitulé « Mariage et concupiscence », tout un programme. Avec la faute va être associée la honte et l'état du couple sera dévalué au profit de la chasteté. Étrangement, le judaïsme, qui pourtant connaît les mêmes textes, ne va pas lier chasteté et innocence en plaçant la chasteté à un degré de moralité supérieur au mariage. En se basant sur le texte et en remarquant à juste titre que dès avant l'épisode du fruit défendu, l'homme a déjà connu sa femme au chapitre 2, il retient que la connaissance physique précède la transgression, en dehors de toute notion de culpabilité ou même de concupiscence, pour reprendre un terme cher aux premiers chrétiens. Alors mon propos n'est pas ce matin de faire une apologie de la sexualité. Vous n'en avez pas besoin. Ni de m'en prendre à saint Augustin, qui a écrit par ailleurs des pages magnifiques, mais simplement de souligner que ce qui paraît être une évidence depuis des siècles, le lien, par exemple, entre concupiscence et péché, n'en est pas une. Marc-Alain Wachnin définit ainsi ce qu'il appelle « le complexe de la pomme ». Et il dit, je cite, « J'appelle complexe de la pomme cette attitude face au monde et au savoir qui donne lieu à la transmission de rumeurs, de préjugés, de on-dit, d'images et d'idées fausses, jamais vraiment interrogées, et qui deviennent savoir, populaire, faisant office de vérité. » Il nomme ce complexe le complexe de la pomme parce que précisément, en ce qui concerne notre texte, tout le monde sait que le fruit défendu est une pomme. Or, rien ne nous indique dans ce texte la nature du fruit. Sans doute faut-il voir dans cette fausse évidence, c'est une explication, l'influence de la version latine de la Bible, la Vulgate, traduite par Jérôme, qui évoque le mal, malum, qui est décliné en mali, et il se trouve que malum, c'est aussi la pomme en latin. Que d'autres recherches aient tenté de montrer que le fruit était plutôt une pêche ou plutôt une figue, importe peu. Avec cet exemple, mais on aurait pu en prendre malheureusement bien d'autres, on comprend comment la traduction parfois se fait trahison, mais aussi, de manière plus pernicieuse, fixation. Que des générations de croyants aient été persuadés que les amants se soient partagés une pomme n'a rien de grave. Au pire, le fruit défendu est-il défini, spécifié, une fois pour toutes, et ne mérite plus qu'on s'y attarde. Il dissuade le lecteur curieux de penser une alternative au sens proposé. Mais vous conviendrez que c'est plus fâcheux quand il s'agit de l'image de la femme ou de la manière dont la sexualité est perçue par toute une société à une époque donnée. Et c'est en fait ce qui s'est passé. Le complexe de la pomme est loin de ne concerner que la pomme. Ainsi, nous l'avons entendu à l'instant, deux récits racontent la création de l'être humain dans la Bible, deux récits qui semblent s'opposer. Dans une version, l'humanité est créée de façon simultanée dans ces deux genres, masculin et féminin, tous deux à l'image du divin. Et dans la seconde, l'humanité constitue dans sa masculinité un modèle originel, dont un modèle féminin sera issu dans un second temps, à partir d'une de ses parties. Deux textes deux histoires différentes, deux visions de la femme. Pour tenter d'unifier ces deux histoires, dont on s'est très tôt demandé comment elles pouvaient cohabiter, les commentaires ont très tôt fait appel à des interprétations qui, parfois, vous allez le voir, prennent à contre-pied la théorie du complexe de la pomme. Ainsi, bien loin du lieu commun, la thèse avancée pour expliquer, une des thèses avancées pour expliquer les différences entre les deux récits de création font état d'une proto-Ève, un modèle d'une femme créée avant Ève. Et les commentateurs de la Bible s'interrogent: comment peut-on expliquer le verset qui dit « Homme et femme, il les créa » avant même la mention de la création d'Ève? Mais plus intriguant encore, cette phrase d'Adam qui s'écrit à la vue de sa femme « Cette fois-ci, elle est bien la chair de ma chair ». C'est ce « cette fois-ci » qui va beaucoup troubler. Il est a priori superflu, mais il soutiendrait à lui seul l'interprétation de ceux qui y voient la preuve d'une foi précédente. Si Adam dit « cette fois-ci », c'est qu'il y a un précédent, c'est-à-dire une autre femme placée antérieurement aux côtés d'Adam. Alors allons plus loin, que s'est-il passé? Incapable de le satisfaire, elle aurait disparu de l'histoire du texte. Dans la littérature rabbinique, cette femme porte un nom que vous avez peut-être déjà entendu au cours de vos lectures littéraires, Lilith. Un nom et un personnage mystérieux qu'on trouve déjà mentionnés dans les mythologies cananéennes et mésopotamiennes. Des textes compilés au Ve siècle racontent l'épisode surprenant qui valut à Lilith d'être expulsée de la Genèse. Lilith, dont vous noterez que le nom n'est mentionné qu'une seule fois dans la Bible. C'est ce qu'on appelle un apax, un nom qui n'apparaît qu'une seule fois. En Ésaïe 34. Une seule fois, c'est très peu, mais c'est quand même beaucoup pour une légende. Ces récits font d'elle une féministe avant l'heure. Son divorce avec Adam serait dû à une dispute du couple. Adam lui dit « Je ne me coucherai pas en dessous de toi, mais seulement au-dessus, car tu es faite uniquement pour être dans la position soumise. » Ce à quoi Lilith rétorqua « Nous sommes égaux, car nous avons été créés de la même terre. » C'est donc la revendication égalitaire et le refus de soumission, symbolisé dans le texte par la soumission sexuelle, qui aurait conduit Dieu à laisser Lilith s'émanciper du récit et à créer une seconde femme, plus docile, d'où la présence des deux chapitres apparemment contradictoires de la Genèse. Trop insolente, trop revendicatrice, Lilith laisse sa place à Ève, issue, là encore, avec une traduction un peu malheureuse, d'une côte de l'homme. Une création de seconde main qui deviendra une figure maternelle et donc rassurante. Ève, c'est la mère de tous les croyants. En discutant autour de moi du projet de placer les partages bibliques de cette année sous le signe des femmes du Premier Testament, je me suis rendu compte que c'était un sujet pour beaucoup qui avait été très peu abordé, malgré un intérêt certain. Et plusieurs personnes m'ont même dit, en fouillant dans leur mémoire, n'avoir aucun souvenir d'une prédication sur Ève. Et en travaillant ce texte, ou plutôt ces textes, ce corpus de textes, je crois avoir compris pourquoi il n'est pas évident, en fait, de trouver dans la littérature autre chose que ce qui pourrait relever du complexe de la pomme. C'est-à-dire des traités très savants, souvent épais et bien renseignés, qui sont entièrement consacrés de manière faussement ingénue à la place de la femme, tirée d'une interprétation du texte qui doit plus au contexte social dans la société de l'époque qu'à une lecture rigoureuse. Ou à l'opposé, comme c'est le cas avec la figure légendaire de Lilith, pour qui j'ai une certaine affection, même si elle n'apparaît qu'une fois, vous regarderez, vous lirez le chapitre 34 d'Ésaïe. Des histoires aussi passionnantes qu'alambiquées, sur lesquelles il est bien difficile, à dire vrai, de s'appuyer. Réhabiliter, si tant est que ce soit une mission qu'on puisse se donner, réhabiliter la figure d'Ève, dont on a dit pique-pendre dans la chrétienté, passe donc forcément par une alternative qui peut prendre, à mon sens, deux voies sur lesquelles j'aimerais vous inviter. D'abord, avec l'aide de la critique historique, si chère aux protestants, c'est-à-dire la capacité du lecteur à situer le texte dans l'espace, dans le temps, pour ne pas en faire une idole sacrée qu'il est impossible de remettre en question. La reconnaissance de ces textes, de l'existence d'une trame narrative archaïque dont le texte biblique se fait le messager. Une trame, je l'ai dit tout à l'heure, qui est héritée de mythes ancestraux de la région mésopotamienne, dont le génie biblique a été de pouvoir s'en inspirer en les travaillant, en les retravaillant, pour en faire un ensemble cohérent qui puisse transmettre un message de vie. Une trame qui met en scène les aspirations, les désirs, les fantasmes, les inhibitions de ces prototypes de l'être humain que sont Adam et Ève, qui nous parlent d'autant plus facilement qu'ils ne nous montrent pas forcément la voie à suivre. C'est la première piste, se lancer à la découverte des origines archaïques de ces textes de la Genèse. Mais la deuxième piste, et c'est ce qui m'intéresse le plus ici, c'est de voir comment, à travers ces figures à la fois si lointaines et si proches, la Bible nous invite de critique du passé, la position qu'on aurait si on ne parle que de mythes archaïques, de critique du passé, nous arriverions à nous faire critique du présent et de notre présent pour interroger nos certitudes. La légende de Faust, qui raconte l'histoire d'un homme qui a vendu son âme au diable pour satisfaire son désir de jouissance et sa curiosité intellectuelle, peut nous y aider ce matin. Une histoire étrangement proche du marché conclu entre Ève et le serpent. Dans notre civilisation, tout se passe comme si le serpent avait rencontré l'homme occidental et lui avait proposé le marché suivant. Tu auras la puissance, la connaissance du bien et du mal, le bonheur, le secret de la création, et tu pourras ainsi renoncer à Dieu. Tu te déplaceras où tu voudras, tu exploreras les limites du monde, tu seras informé en direct de tout ce qui se passe partout. Tu posséderas tout, tu pourras guérir les maladies et réparer la vie. Nous avons signé le contrat et le serpent a tenu parole. Nous avons tout, nous avons la science, la connaissance, la puissance. Nous avons seulement perdu le sens. L'humain connaît l'univers, mais il ne sait pas à quoi il sert. Il a percé le secret de la vie, mais il a perdu le sacré de la vie. Il peut communiquer avec n'importe qui, dans le monde entier, mais il n'a jamais été aussi seul qu'aujourd'hui. Il produit de la nourriture comme jamais, mais il ne sait pas la partager. Alors nous l'avons vu, de nombreuses personnes se sont interrogées pour connaître la nature du fruit défendu. Certains en ont conclu qu'il est quelconque et que sa seule particularité, au fond, c'est de conduire Adam et Ève à regarder chaque fruit et à s'interroger sur sa nature avant de se l'approprier. Avec cette réflexion, l'acte de manger fait son entrée comme d'autres, comme l'acte de s'unir à quelqu'un, comme l'acte de travailler la terre, comme l'acte de domestiquer les animaux. Avec cette réflexion, l'acte de manger fait son entrée dans le champ éthique et fait accéder l'être humain à une dimension qui l'élève. Et la contrainte n'est plus vécue en termes de frustration, mais en termes d'interrogation. L'humain vit au milieu des contraintes. Il n'est pas responsable de son apparence physique, il n'est pas responsable de l'instruction qu'il a reçue, mais il est responsable du caractère moral de son comportement. Il est, pourrait-on dire, responsable des fruits qu'il mange. Il est responsable aussi des fruits qu'il ne mange pas. Mais je ne voudrais pas finir sur une note moraliste, alors que le texte ne l'est pas, malgré le complexe de la pomme qui nous a persuadés du contraire. En effet, le texte ne dit pas « tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». C'est ce que nous en avons retenu. Mais il dit « tu pourras manger de tout arbre du jardin ». Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est étonnant de voir comment l'homme n'a retenu que l'interdit, alors que l'Écriture place la liberté au centre du message. Dès les premières lignes de la Bible, l'hymne à la liberté qui nous est offert diffère d'une conception de la liberté comme absence de limite. C'est que dans la pensée biblique, la liberté se définit par la responsabilité devant les choix. Et nous sommes, chacune et chacun, aujourd'hui encore, et c'est ce qui fait l'actualité de ce texte, devant le choix de nous situer entre l'accueil et la rébellion. L'être humain peut se situer dans le questionnement éthique de ses choix. Pas uniquement en ce qui concerne le rapport à la nourriture, mais aussi dans toutes les autres perspectives de nos vies. Ainsi, et je terminerai par là, ce que je retiens de ce texte, c'est que le couple, désir de relation, n'est pas une donnée culturelle, mais un élément constitutif de l'humanité. Et la côte d'Adam, que l'on devrait bien plus sûrement traduire par « le côté », nous apprend que c'est en nous engageant dans un côte-à-côte avec un être différent que l'on accomplit sa vocation, que notre identité se révèle dans la relation à l'autre, qu'il n'y a pas de « je » possible sans un « tu » ou un « il ». Lorsque Adam s'émerveille devant la femme en s'écriant « voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair », il vient de se réveiller. Que sait-il du travail de Dieu pendant son sommeil? Parfois, l'être humain considère son conjoint ou son prochain comme un dû ou un mérite. Nous pouvons aussi comprendre qu'il est un produit de la grâce de Dieu, comme nous le suggère cette histoire. Un jour, il y a bien longtemps, une dame romaine demande à Rabbi Yossi ben Halafta « Combien de jours a-t-il fallu à Dieu pour créer le monde ?»« 6 jours. » Et que fait-il depuis ? Depuis, il a sorti les couples. Il fait les mariages en unissant tel garçon à la fille de tel homme. Quoi ? Est-ce là son unique occupation ? Et je peux en faire autant avec mes serviteurs et mes servantes, en un rien de temps. « Oh, cela n'est pas aussi facile que vous le pensez, » répond le maître. « Pour Dieu, cette activité est aussi difficile que l'ouverture de la mer Rouge. » Rentrée chez elle, la dame romaine prend ses serviteurs et ses servantes, elle les met en rang, elle les unit les uns aux autres en l'espace de quelques secondes. Le lendemain, les serviteurs viennent trouver leur maîtresse. L'un est griffé au visage, le deuxième a une oreille arrachée et le troisième une main brisée. « Que s'est-il passé ?» demande la maîtresse. « Je ne veux pas de cet homme pour mari, » dit la première servante. « Et moi, » dit le serviteur suivant, « je ne veux pas me marier avec cette femme. » La dame romaine convoque Rabbi Yossi et lui dit « Il n'y a pas de Dieu comme le vôtre. » Le matin, à son réveil, chaque personne devrait vérifier si elle a le visage intact, l'oreille collée et la main en bon état. Et si c'est le cas, elle doit se tourner vers son conjoint, vers son prochain, et passer du côte à côte au face à face, s'émerveiller du don de Dieu et dire avec Adam « Voici l'os de mes os la chair de ma chair. Amen.
Vous venez d'écouter une méditation de l'Église réformée du Bouclier. Que Dieu, par sa parole, vous accompagne et vienne toujours mettre foi, espérance et amour dans vos vies.